Mia. À Montpellier, sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 18h sur Radio Aviva.
Radio Aviva, le flash local.
Bonjour à toutes et à tous, dans l'actualité de ce jeudi 19 décembre. Mardi, en préambule au conseil municipal, la ville de Montpellier a voté à l'unanimité une première aide d'urgence exceptionnelle de 10 000 euros afin de soutenir les victimes du cyclone Chido qui a touché l'île de Mayotte samedi 14 décembre. Ce dispositif a été mis en place en partenariat avec l'Association des maires de France qui récolte ces aides en lien avec la protection civile présente sur place. De surcroît, en collaboration avec les associations de solidarité, un dispositif de soutien aux étudiants mahorais a d'ores et déjà été mis en place. Ajoutons que d'autres actions de solidarité seront déployées dans les semaines à venir. Lors de la session de l'Assemblée départementale du 16 décembre, les conseillers départementaux ont voté en faveur d'une convention d'études avec le Centre régional de la productivité et des études économiques de l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. S'inscrivant dans le cadre d'une démarche de labellisation par l'UNESCO du géoparc Terre d'Hérault, ce projet consiste à réaliser l'inventaire de la production minière et carrière sur le périmètre. 6 ans après son lancement, la plateforme d'orientation Parcoursup continue d'évoluer. Cette année, plusieurs nouveautés ont été mises en place afin d'en renforcer la transparence et de réduire le stress des candidats. Principale nouveauté, l'introduction d'une carte d'identité pour chaque formation. Ce document synthétique réunit toutes les informations essentielles, telles que, entre autres, statut de l'établissement, sélectivité, nombre de places disponibles et labels. Cette initiative doit donner aux lycéens une vision claire et rapide de chaque cursus, notamment en ce qui concerne les formations privées dont la qualité peut varier. Suite à la signature d'une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et le département de l'Hérault, un nouveau budget a été alloué au SDIS 34 pour une période de 2 ans. 3 objectifs ont été fixés. Il s'agit de maintenir le niveau élevé des services rendus à la population, assurer une meilleure gestion des ressources dédiées à la politique publique de protection et de sécurité, et enfin de renforcer les logiques de mutualisation des actions et des moyens entre le département et le SDIS. C'est la fin de ce Flash Info du jeudi 19 décembre. À bientôt sur Radio Aviva.
La météo dans l'Hérault.
Bonsoir à tous, un ciel couvert est attendu ce soir dans tout le département avec quelques risques d'averses dans les hauts cantons. Les températures descendent en dessous des 10 degrés avec des pointes jusqu'à 1 degré durant la nuit à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Demain, vendredi, malgré quelques nuages, vous profiterez d'un beau soleil. On attend 7 degrés le matin et 11 l'après-midi à Montpellier. Très belle soirée sur Aviva.
Thank you. Tempo.
L'actualité de vos sorties nocturnes
à Montpellier et dans l'Hérault.
Bienvenue dans Tempo. Cette semaine, je vous propose trois événements. Le 18 décembre, le Rockstore de Montpellier accueille son prodige local, Carbone, pour un concert d'exception. On s'y croira comme un soir d'été avec ses flots posés et solaires. Le mélomane est pris d'assaut par Onyxium le 21 décembre. Musiciens passionnés et amateurs s'y rassemblent, animés par le désir de tout casser. Vous trouvez donc Binar Squad, Galetech ou encore Tépracide. Le mélomane, c'est 11 rue de l'Antisargue à Montpellier. La Altropisme accueille le collectif Kawaii, aucun rapport avec le terme japonais, ici on parle l'argot. Le collectif mettra donc le Y le 18 décembre à 19h avec des genres musicaux divers et variés, au travers de DJ sets de Satine, LW2, La Fraise et une performance live de Dylan Dive à ne pas manquer. Voilà, Tempo c'est terminé, je vous souhaite de bonnes sorties sur vos spots préférés.
Tempo,
l'actualité de vos sorties nocturnes
à Montpellier et dans les Hérault.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements et sorties à venir. Dans ses toiles, Laura Garcia Carras passe au-delà du langage poétique des fleurs et invoque leur symbolique de fragilité et d'éternité, transcende leur sensualité, leur aspect charnel. Venez découvrir Pérennial du mercredi au dimanche de 11h à 18h jusqu'au 12 janvier 2025 au Moco Panacée, 14 rue de l'école de pharmacie à Montpellier. Fermeture exceptionnelle les mercredis 25 décembre et 1er janvier. Entrée gratuite et ouverte à tous. 13 décembre au 5 janvier 2025, Palavas-les-Flots organise le village de Noël Les Flots Enchantés, un lieu magique en bord de mer où petits et grands vivront la magie de Noël à travers des animations, des gourmandises ainsi que des produits artisanaux de qualité. Un rendez-vous incontournable pour se plonger dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Le village Les Flots Enchantés est une entrée dans le monde de Noël à travers ses stands de sucreries et de produits régionaux. Vous pourrez savourer des gaufres, des nougats, des calissons et autres spécialités. Un vrai paradis pour les gourmands et les amateurs.
amateurs de spécialités bretonnes, corses ou encore alsaciennes qui souhaitent se régaler en famille ou entre amis. Partager un moment en famille au musée de préhistoire de Tautavel pendant les vacances de fin d'année. Pendant ces vacances du 23 décembre au 3 janvier 2025, vous pourrez partager en famille des activités de découverte de l'art et des techniques de nos lointains ancêtres. Le musée sera ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, sauf les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier 2025. Le billet est valable toute la journée et toutes les activités sont sans aucun supplément au droit d'entrée et il n'est pas nécessaire de réserver. Du 2 décembre au 2 janvier 2025, l'hôtel de ville accueille l'exposition Cancel Culture signée Farah Fahrenheit Adjili. Engagé et proétiforme, le travail créatif de l'artiste s'axe sur le questionnement des identités culturelles, notamment entre Moyen-Orient et Occident. Avec Cancel Culture, Farah Fahrenheit Adjili, une interprétation possible d'un monde sans frontières, une exposition qui emmènera le public dans les pas d'une tribu matriarcale imaginaire composée de nomades qui voyagent en moto de quelques temps et animaux. Cette exposition sera dévoilée à Juvignac avec une série d'œuvres célébrant la diversité et la mixité. C'est tout pour cet agenda. À bientôt sur Radio Aviva.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, pas nager le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue soufflot. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé? Qu'est-ce que tu deviens? Médecin. Et toi Pascal, tu pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses. Comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques. L'amour mort à une nouvelle a fait place. Et vous, et vous, et vous. Et toi Marco, qui ambitionnais simplement être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Ben c'est formidable, les copains. On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table. Comme on étale, c'est d'être au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. 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 se donnait rendez-vous dans 10 ans.
Vie quotidienne.
Nous sommes dans la dernière ligne droite avant le lancement des festivités. Mais au fait, il existe le Père Noël ou pas ? Ah, cette grande question, tous les parents la redoutent, presque aucun n'y échappe et franchement, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Personnellement, ma fille, 6 ans et demi, m'a demandé si moi j'y croyais au Père Noël. J'ai bredouillé quelque chose pour essayer de gagner du temps, mais elle m'a tout de suite rassurée. En tout cas, moi j'y crois. Ouf, si près du but, je pense qu'elle préfère ne pas douter au risque que tout s'arrête. Si en maternelle, la magie est totale, les choses se compliquent souvent à l'entrée au CP, un spoil à la récré est vite arrivé. En général, on conseille plutôt de laisser les enfants se rendre compte eux-mêmes de cette invention. Vous pouvez aussi choisir de l'annoncer selon la maturité et la personnalité de votre enfant. En tout cas, il faut y aller avec douceur et répondre avec sérieux à toutes leurs questions, car pour certains, c'est une véritable trahison. Le mensonge des parents et de toute la famille peut être un coup dur. Rappelez alors la beauté de cette histoire, l'importance de vos valeurs familiales et cette transmission de génération en génération. Et si votre enfant préfère y croire, après tout, pas de problème, on en reparlera l'an prochain. N'oubliez pas qu'on peut généralement compter sur les aînés pour ne pas trahir le secret auprès des petits frères et sœurs. Souvent, ils adorent même entretenir le mythe en étant du côté des grands, car c'est ce que permet cette grande révélation, devenir encore un peu plus grand. Et ça, en général, les enfants sont ravis, d'autant que ça ne change rien pour les cadeaux au pied du sapin. Sur ce, bon courage à tous les parents pour cette période très peu reposante, on le sait. Et n'oubliez pas, la magie ne dure que quelques années.
Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Le veille à 7h du mat, t'es déjà en retard, ton patron va encore te brasser. Tu t'habilles direct, tu prendras ta douce ce soir, tu finis de lasser tes chaussures dans les escaliers. J'ai besoin d'air, besoin de liberté, ce ne sont pas des mensonges, c'est la réalité. Je ne suis pas un roi, mais je ne suis pas un pion, je dois être le fou comme je ne suis pas cavalier. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
Le peuple était au pouvoir, il n'y avait plus du tout de politiciens. C'était le sourd, le bandit des magasins. Tout le monde avait un droit et plus personne n'avait faim.
Je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Oh, 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 oh. Et je ne délire pas, mais je suis très sérieux. Allez leur dire qu'on vient pas faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne. Te souviens-tu des amis que tu as eu question? Te souviens-tu de ce que tu as perdu? Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Et ça donne, passe le message à ton voisin. Et ça donne, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dites-leur que chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin.
Sur cette terre, si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts, je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil si tu écriras un livre ou un opéra.
Chaque jour, pour la musique, l'info, les proximités. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour nous écouter. Désormais, nous vous retrouvons aussi en DAB+. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Radio Aviva, le Flash Info.
Bonsoir à tous. La fin d'un procès qui restera dans l'histoire, celui des viols de Mazan. La cour criminelle du Vaucluse a rendu son verdict. Des peines de 3 à 20 ans de prison ont été prononcées. La peine maximale contre Dominique Pellicot, reconnu coupable de viols aggravés après avoir livré sexuellement son épouse à des dizaines d'inconnus recrutés sur Internet. À la sortie de 3 mois et demi d'audience, Gisèle Pellicot est revenue sur la portée de cette affaire.
J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle.
Gisèle Pelicot qui a indiqué respecter la décision de la Cour. Dans un communiqué, en revanche, ses enfants se disent déçus des peines qu'ils jugent trop basses. Une trentaine de personnalités politiques étaient réunies cet après-midi à Matignon, de gauche comme de droite, mais sans le Rassemblement National ni la France Insoumise. Table ronde organisée par François Bayrou. Le Premier ministre propose au chef de parti de rentrer au gouvernement, un gouvernement qu'il souhaite former avant Noël. Le maire de Pau souhaite également ouvrir une discussion sur les retraites jusqu'au mois de septembre. Un deuil national décrété lundi prochain en France après le drame de Mayotte, ravagé par le cyclone Chido. Les drapeaux seront en berne et les Français invités à se recueillir. Annonce d'Emmanuel Macron sur place. Le président promet de mobiliser tous les moyens nécessaires pour la reconstruction de l'archipel. Et puis le succès des JO de Paris à la télévision. Selon les derniers chiffres de l'ARCOM, les Jeux ont été suivis par plus de 70% des Français, presque 60% pour les Jeux paralympiques. Plus de 24 millions de téléspectateurs pour la cérémonie d'ouverture. C'est un record historique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente soirée.
La météo dans l'Hérault.
Bonsoir à tous, un ciel couvert est attendu ce soir dans tout le département avec quelques risques d'averses dans les hauts cantons. Les températures descendent en dessous des 10 degrés avec des pointes jusqu'à 1 degré durant la nuit à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Demain, vendredi, malgré quelques nuages, vous profiterez d'un beau soleil. On attend 7 degrés le matin et 11 l'après-midi à Montpellier. Très belle soirée sur Aviva.
Libre-échange. Une personnalité se livre, ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscaye.
Bonjour à toutes et à tous, un libre-échange consacré à la laïcité qui fait l'actualité de cette semaine avec la journée en commémoration de la loi sur la laïcité le 9 décembre. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir, un immense plaisir, un honneur, Michel Miaille. Professeur Michel Miaille, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur émérite de la fac de droit, vous avez fait une carrière remarquée en droit et en sciences politiques, et avec un petit regard sociologique très souvent.
J'ai fait aussi des études de sociologie à la fac de droit.
Voilà, donc du coup ça a un peu, je crois, orienté, éclairé votre carrière et votre approche. C'est dire que vous avez une approche vraiment transversale, vous êtes le spécialiste de la laïcité, plusieurs ouvrages, plusieurs actions, une très belle action avec la Ligue de l'enseignement pendant des années. C'est important d'amener les jeunes à la laïcité?
Absolument, d'autant qu'ils sont sensibles quand on leur explique ce que c'est. Beaucoup ont une idée très fausse, comme la plupart des Français, sur ce qu'est la laïcité. Une fois qu'on l'explique et qu'ils l'ont expérimenté, ils sont d'accord.
Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de laïcité à la française, Michel Miaille?
Alors, je crois que d'abord, on parle d'une histoire qui nous est particulière, qui est l'histoire de la France, qui est assez particulière par rapport à même tous les autres pays de l'Europe. C'est une histoire qui apparemment est très longue et en réalité assez courte. Elle est très longue si on remonte au Moyen-Âge et où on sait qu'il y avait une religion officielle qui était le catholicisme romain qui s'imposait, en dehors duquel il n'y avait ni vérité ni possibilité de vivre.
Il faut rappeler
que les communautés juives, oui, les communautés cathares, plus tard la communauté protestante, plus tard les libres penseurs, ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ont expérimenté ce que voulait dire une religion d'État. Donc, au fond, sur de longs siècles, on voit bien que l'idée de laïcité n'existe pas. L'idée qu'on puisse avoir soi-même sa propre religion et qu'on a en rendre compte à personne, l'idée qu'on doit être traité également, n'existe pas.
En dehors d'une religion d'État.
Voilà. Si on n'appartient pas au catholicisme, on n'existe pas. Je rappelle que, par exemple, c'est pour les protestants très vifs, que comme ils n'étaient pas catholiques, ils n'étaient pas baptisés, on ne pouvait pas les marier, et on les enterrait pas, donc il n'existait pas.
C'est terrible,
il a fallu attendre un an avant la Révolution pour qu'ils aient le droit d'exister civilement. L'histoire est quand même
extrêmement difficile.
Absolument.
Et lourde.
Donc, comment vivre dans un pays où vous n'existez pas? Donc, l'histoire est apparemment très ancienne, mais ce n'est pas une histoire de laïcité, c'est une histoire du contraire de laïcité.
Bien sûr.
L'histoire de laïcité, elle commence au fond assez tardivement. Un petit coup de clairon, j'allais dire, avec la Révolution, qui annonce, première chose nouvelle, on a le droit de croire ce que l'on veut.
Absolument,
c'est l'article 10, toujours applicable. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Et je me plais à dire à chaque fois que c'est quand même un pasteur protestant de Nîmes qui a proposé ce texte-là.
Cocorico.
Cocorico.
Le Nîmois est heureux.
Qui est monté à la tribune. Et je vais ajouter un point. Il est monté à la tribune pour défendre le jour où on a voté, en tout cas discuté et voté cet article 10 de la Déclaration des droits. Il dit, je viens au nom d'une communauté, qui est la communauté protestante de Nîmes, pour présenter ce vœu sur la liberté, et au nom d'une communauté qui est toujours méprisée, la communauté juive.
Incroyable.
Et donc, il parle au nom des juifs et des protestants contre l'autorité absolue de l'Église catholique, et il emporte le morceau. Et désormais, nous sommes dans un état où croire ou ne pas croire, croire de cette manière ou d'une autre, fait partie de la normalité.
C'est le domaine privé.
Absolument, et même si on a le droit de l'exprimer publiquement.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, je crois que c'est très important parce que ça inaugure une nouvelle ère. Mais les révolutionnaires n'ont pas eu le temps d'organiser la suite, qui était le statut des organismes qui gèrent les cultes. Il faut attendre Napoléon. Et Napoléon, il n'a pas une idée très libérale. Lui, il sait que c'est très bien de se servir des églises. Alors, comme quand même la révolution est passée par-dessus, Napoléon va ouvrir un petit peu les vannes. Il y a trois cultes officiels. Les catholiques, les protestants et les juifs. Et donc, on a pour un siècle, jusqu'en 1905, un régime de trois cultes officiels reconnus, payés par l'État. Les curés, les pasteurs et les rabbins sont des fonctionnaires de l'État et qui ont une fonction officielle. Il faut attendre donc tardivement 1905 pour que, dès la fin du 19e, ça commence à remuer, arrive cette idée. Un, chacun a le droit, mais sans le CDP Révolution, de croire ou de ne pas croire. Et deux, l'Église, ou les Églises, sont séparées de l'État.
Séparation de l'Église et de l'État total.
On a une histoire très récente, si j'ose dire, si on regarde le millénaire qui nous précède, une histoire très récente de la laïcité, même si les problèmes qui ont provoqué la naissance de la laïcité sont très anciens.
Et pas perdurer ce système en Alsace-Lorraine.
Il perdure en Alsace-Moselle depuis 1914 ou 1918, puis rebelote en 1944, mais il perdure aussi dans d'autres régions qu'on a oubliées. Par exemple, en Guyane, le régime des cultes est géré par une ordonnance de Charles X. Ce qui fait que, j'espère que les Guyanais le savent, c'est les Guyanais qui payent les curés et l'évêque, et il n'y a pas d'autre enseignement primaire que l'enseignement catholique.
Ah, c'est énorme.
De même, avec vos impôts, vous serez content d'apprendre que vous payez les curés et l'évêque de Saint-Pierre-de-Miquelon.
Voilà, donc il y a des petits accros.
Il y a des petits accros.
Alors, cette laïcité, elle se décline, bien sûr, c'est une sécurité pour nous tous. Elle est très mal comprise, elle est très souvent instrumentalisée, Michel Miaille.
Très souvent. Alors, je voudrais rappeler simplement les deux éléments qui caractérisent la laïcité. C'est l'article 1 et l'article 2 de la loi. Article 1, chacun a sa conscience et est libre de choisir les choix spirituels qu'il veut.
Bien sûr.
Et
liberté
donc, il a le droit d'avoir les pratiques religieuses correspondant à sa conscience. Liberté absolue conscience, individuelle et secrète, et liberté de culte qui, elle, est collective et publique. Deuxième élément fondamental, les églises et l'État sont désormais séparés. Avec ces deux articles, vous avez, si j'ose dire, la loi et les prophètes. Toute la base de la laïcité, on peut résoudre tous les problèmes à partir de qu'est-ce qui est en cause. La liberté de penser et de croire, elle est absolue. La liberté de montrer, oui, sauf si vous troublez l'ordre public. Et en tout cas, vous ne recevez aucun subside de la part de la République.
De l'État. Très souvent, il est encore dit, dans des actions pédagogiques, j'entends, que la laïcité, c'est l'interdiction des religions. Donc c'est absurde, c'est faux. Une instrumentalisation.
C'est au contraire, c'est la liberté, une liberté de plus. C'est absolument la liberté, à la fois individuelle, secrète, collective et publique, de pouvoir croire et manifester sa croyance, pourvu qu'on ne trouve pas l'ordre public. Et dans l'ordre public, les tribunaux qui ont été amenés à intervenir ont été extrêmement libéraux pour considérer considérer que telle manifestation, tel défilé, telle cérémonie ne troublait pas l'ordre public et que donc c'était tout à fait admissible comme expression de la liberté. Malheureusement, aujourd'hui, c'est l'inverse qui a le vent en poupe.
Ça s'est inversé.
La laïcité, ça veut dire qu'on ne peut pas. Mais ce n'est pas vrai, c'est exactement le contraire.
C'est absolument faux, il est important de le rappeler sur cette antenne. Alors, on a quand même des actes qui contreviennent à la laïcité. 1812 faits d'atteinte à la laïcité en 2023, c'est beaucoup. Une hausse de 75% et dans des collèges, dans des lycées, sur la voie publique, bien sûr. Michel Mireille, procéder pour faire comprendre, remettre un peu la laïcité au cœur de notre lien et de notre débat citoyen.
Alors évidemment, sur les 1812 faits qui ont été relevés, il y a un peu de tout. Il y a des choses banales, il y a des choses plus graves. Donc la statistique ne nous donne pas un état réel de ce qui se passe. Mais c'est trop, de toute façon c'est trop. Et c'est dans un lieu très particulier qui est l'école publique. Alors j'ai même une collègue qui dit, mais la loi de 2020 sur l'interdiction des signes religieux, ça n'a rien à voir avec la laïcité. C'est une loi de l'école. Et elle traite des scolaires. Et donc, ce n'est pas une loi de la laïcité puisque les jeunes ont le droit, en dehors de l'école, d'aller à la mosquée ou à l'église, de croire en Jéhovah ou de croire en Vishnu. Il n'y a aucune limite dans leur choix. Et donc, c'est très important de rappeler que la loi scolaire, elle est très particulière au milieu et elle ne vaut que pour ses usagers particuliers qui sont tous des mineurs. La preuve, c'est que quand ils deviennent majeurs à l'université, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de porter le voile ou une croix ou une kippa, ils ont le droit d'avoir des conversations de type spiritualiste ou religieuse. Donc c'est bien l'état de minorité où ils sont qui justifie qu'on leur dit pour le moment, vous ne pouvez pas être maître de cette question, donc on pratique la neutralité.
C'est pour éviter que justement, ils se fassent influencer en étant mineurs,
et
n'ayant
pour
pas
cela
les
que,
éléments.
Dans l'école, depuis Jules Ferry, donc depuis 1881, les murs sont laïques.
Oui.
Pas de croix, de Sainte Vierge ou d'images pieuses. Les professeurs sont obligatoirement laïques. Les enseignements sont laïques. Et maintenant, les élèves doivent être neutres en matière de manifestation de signes religieux.
C'est important, c'est fondamental, c'est une sécurité la cohésion sociale.
Qu'il n'y a pas le désordre dans l'école pour ces raisons-là. Mais ça n'empêche pas les enfants d'avoir des discussions, de poser des questions.
Oui, heureusement d'ailleurs.
Il ne faut pas croire qu'ils sont brimés comme du bétail.
Ça se fait très tranquillement. Oui. Alors, les réseaux sociaux ont un peu malmené toute cette notion. Michel Mireille, c'est un relais de plus compliqué à gérer.
Alors, les réseaux sociaux, ils se sont emparés de phénomènes qui sont évidemment extrêmement visibles et ambigus pour certains, et qui sont notamment liés à l'immigration.
Oui.
Au fond, jusque dans les années 70-80, en gros jusqu'à Giscard d'Estaing, on ne s'est pas trop préoccupé d'une forme nouvelle de religion qu'on ne connaissait pas, qui était l'islam. Pourquoi ? On avait ce qu'on appelait à l'époque joliment l'islam des caves.
Oui, c'est
on
vrai.
S'en souciait pas, on les voyait pas, ils n'arrivaient pas à montrer le bout du nez. À partir des années 70-80, l'immigration familiale a favorisé la pratique dans les familles
de
et hors des familles
visible, d'ailleurs, et tranquille,
absolument. De leur religion. Et des partis, vous voyez lesquels, ont profité de cette occurrence pour monter en graine cette idée qu'on était envahi, que la civilisation française était en cause et qu'il fallait donc maîtriser, pas simplement l'immigration, mais l'islam. Or, l'islam, c'est pas plus que le catholicisme qui pourrait être réduit à la lutte contre les cathares il y a 12 siècles.
Absolument. Bon,
c'est pas que ça, le catholicisme. Ou on pourrait dire le protestantisme vengeur dans certains pays anglo-saxons. Bon. Il faut dire que on a assisté, disons, à une sorte de projection sur tout l'islam d'une fraction extrémiste qui venait souvent de l'extérieur, d'ailleurs, immaîtrisable, qui avait un projet politique,
avec,
ça n'a rien à voir avec la religion, et qui voulait installer des formes de pouvoir dans notre société.
Un clientélisme.
Et donc, il faut savoir séparer ces choses-là. Si les gens commettent des attentats, ça n'a plus rien à voir avec la laïcité,
bien entendu,
ni à voir avec la religion. C'est un attentat à l'ordre public, et donc ça doit être puni.
Absolument.
n'y a pas besoin de se poser des problèmes majeurs. Mais 80% des musulmans que nous avons dans notre pays sont des gens qui pratiquent tranquillement leur religion.
Heureusement, et c'est très bien comme ça. Alors, cette façon de séparer les choses, de ne pas appeler, rendre la laïcité responsable de tout, c'est fondamental. C'est fondamental aussi de l'apprendre d'apprendre à la décliner. Je sais que les fonctionnaires font maintenant une formation obligatoire à la laïcité. Pourquoi ce besoin ?
Alors, les fonctionnaires sont les premiers parce qu'ils représentent l'État ou les collectivités locales et qu'ils ont des fonctions, quelquefois d'autorité, à faire les frais de
des contacts,
des contacts et de certaines formes de violence. Bon, ils sont tenus par un statut qui est très rigide.
Oui.
Ils ne peuvent, ni par leur costume, ni par leurs paroles, ni par leurs gestes, faire la moindre allusion
à une opinion,
à une opinion et une conviction religieuse. Oui. Même s'ils ne sont pas en contact avec le public.
C'est ça.
Un cas qui a été traité par la Cour de cassation, c'est la caisse primaire de sécurité sociale à Paris, une dame qui travaille au troisième sous-sol, qui ne voit personne, et elle arrive avec un foulard. Elle a été licenciée et elle a perdu son procès devant la Cour
de
cassation.
Donc c'est la neutralité
de l'agent
d'État.
C'est votre statut qui s'impose, même si vous n'avez pas de rapport. À plus forte raison, si vous avez des rapports avec le public. Moi, comme je dis aux élèves, je ne veux pas savoir quand je vais à la poste. Si celui qui me vend le timbre, il croit en Dieu ou pas. Je ne veux pas, quand je vais prendre mon ticket ou mon billet à la gare, savoir si l'agent de la SNCF, il est croyant, protestant, catholique ou musulman, ça ne fait pas partie de ce qu'il doit me montrer. Et donc, la neutralité des agents, elle est une garantie pour que notre système public fonctionne,
et d'ailleurs,
indépendamment de toute pression.
Quand on rentre dans la fonction publique, on le sait, et on fait ce choix. Ce n'est pas possible de changer après, en fait.
Absolument.
On le sait. C'est une donnée de base, ça n'est pas une surprise.
Pour vous donner un exemple, on a un cas d'un gardien de HLM public qui, tout d'un coup, réalise qu'il a besoin d'aller faire la prière le vendredi à la mosquée. Alors il dit, voilà, je vais m'absenter le vendredi de 16 à 17, mais je remplacerai l'heure. Et les tribunaux lui ont dit, non monsieur, vous perdez votre emploi.
D'accord,
vous avez signé,
cadre.
Vous saviez à quoi vous vous engagez, on n'a pas prévu un créneau pour que vous absentiez pour des raisons religieuses. Alors il poussait les grands cris, on veut me blesser dans ma conviction, dans ma religion. Non, on ne vous force pas à être gardien d'immeuble, changer de métier.
Absolument.
Mais là, vous ne pouvez pas, vous avez accepté une fonction avec ses contraintes.
Alors, Michel Miaille, comment avancer à présent dans cette perception apaisée de la laïcité?
Je crois qu'il faut multiplier les occasions d'expliquer.
Je
crois que beaucoup de gens, par bêtise ou
par ignorance,
ne savent pas de quoi ils parlent. Donc moi, je passe mon temps souvent à rectifier quand j'entends quelqu'un dire « Non, madame ou monsieur, vous vous trompez, c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Citez-moi le texte dont vous... » Et ils sont un peu quoi dans ces cas-là. C'est pas vrai, je vais vous dire quel est le texte qui s'applique ou ce qu'a dit vraiment le tribunal. Il n'a pas dit ça, c'est pas vrai. Et je crois que si on rectifiait et si on avait une vision, je veux dire un comportement plus apaisé,
un peu positif,
ça calmerait les choses.
Exactement.
Mais si on monte en graine des petites chicayas qui quelquefois démarrent sur toute autre chose et puis ça devient un procès de la religion et d'une religion en particulier, on s'en sortira jamais. C'est
on n'y arrivera pas et il est important de garder.
Moi, c'est ma nature et puis c'est ma fonction pendant des dizaines d'années d'être là pour expliquer, dire vous vous trompez et ne mettez pas Dieu à toutes les sauces. Je vais vous donner un exemple qui vous fera sourire. Je faisais cours dans un amphi de première année, il y avait quand même 300 ou 400 étudiants, et je faisais un cours un peu qui les secouait un petit peu en sociologie politique pour leur montrer que leur vie réelle ne correspondait pas à ce qu'ils voyaient à la télévision. Bon. Et en général, ils étaient un peu remués, mais ils étaient étonnés et plutôt favorables.
En plus, vous avez une belle éloquence, donc j'imagine.
Un jour, à l'interruption du cours, une jeune fille voilée, de chez voilée, me vient, elle descend dans la travée et elle me dit « Monsieur le professeur, je me régale à vos cours et j'aimerais vous poser des questions. » Ah, je dis, je vous en prie, allez-y. Monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu ?
Accès.
Alors, je pourrais répondre parce que dans le supérieur, on est libre. Et instantanément, je me suis dit, si je lui dis « je crois en Dieu », elle va dire « Alhamdoulilah, donc c'est juste. » Si je lui dis « je ne crois pas en Dieu », aïe. gitane, c'est le diable. Ouais. Donc il faut que je me méfie. Donc dans les deux cas, je me trompe. Et je lui ai dit, alors que je le pourrais, mademoiselle, je ne répondrai pas à votre question. Mais si, monsieur, quand même, j'avais... Non, je lui ai dit, écoutez, il n'y a que deux choses. Ou bien ce que je vous dis, ça vous intéresse. Ça vous paraît acceptable.
Sans autre critère.
Et vous pouvez le contrôler intellectuellement. Ouais. Ça me suffit. Ou bien, ce n'est pas suffisant, vous voulez en appeler à Dieu, et moi, ce n'est pas le juge de mon cours. Ouais. Donc, je ne l'ai plus revue.
Elle a compris, elle n'est plus revenue.
Peut-être elle vous écoute, là.
Oui, peut-être. Alors, si vous nous écoutez, mademoiselle.
Ben, voyez.
Voilà. En fait, très souvent, il y a cette espèce de glissement vers l'opinion religieuse des gens.
Absolument.
Et on attribue finalement comme un faux ami la responsabilité de ceci ou cela.
Absolument.
Et c'est extrêmement important ce que vous dites là, professeur Miaille, c'est vraiment de séparer les choses et de ne pas mélanger les définitions.
Absolument, il y a des choses qui ne doivent pas être mélangées, surtout quand il s'agit de formation des jeunes esprits.
Et oui.
Alors si on commence à les embrouiller dans « écoutez ce que je vous dis parce que c'est Dieu qui l'a dit », alors ça, ce n'est pas possible.
Dans votre expérience.
Que chacun ait la liberté de se dire « je crois ou je ne crois pas », et c'est mon affaire, et ce n'est pas le professeur qui doit me l'enseigner.
Dans votre expérience, les jeunes publics, comment reçoivent-ils ça ?
Alors, d'abord, vous savez, il y a une part non négligeable maintenant qui sont détachés de toute croyance.
Complètement,
en tout cas,
c'est pour ça que
de croyance avec des rituels.
Ouais.
Ils peuvent avoir des croyances un peu vagues.
Des traditions.
Traditions, ou alors des choses un peu... Oui. Ça vient de l'Inde, les sages, les fumerolles. Il y a un peu de tout.
Là.
Mais la croyance articulée sur des pratiques religieuses, il y en a très peu. Peut-être 30% aujourd'hui, réellement. Même si c'est différent suivant les quartiers, suivant les familles.
Oui, bien entendu.
Parce que quand on a été
dans une famille,
on a envoyé les enfants dans des institutions catholiques, on les retrouve un peu plus tard, évidemment, nourris de ce lait-là. Bon, mais une grande partie sont vacants, si je veux dire, ouverts, parce qu'ils n'ont pas de structure là-dessus. Ouais. Donc, c'est encore plus grave, parce qu'ils peuvent suivre n'importe quoi.
Ils peuvent être
influencés. Donc, il faut leur dire, c'est votre affaire, choisir de croire ou de ne pas croire, c'est important, c'est sérieux, mais c'est votre affaire. C'est pas l'affaire des professeurs, c'est pas l'affaire
de l'environnement.
D'influenceurs.
De l'environnement.
Et donc, assumez que vous croyez ou que vous ne croyez pas, assumez votre position, vous en avez tout à fait le droit, et la République respecte votre choix.
Avec la définition de ce qu'est la laïcité.
Absolument.
Et de ce qu'elle n'est pas, justement.
Voilà, votre conscience et vos pratiques, ça vous appartient.
Oui.
Nous n'avons rien à dire là-dessus, ni pour, ni contre. Je n'ai pas à être pour une religion ou une croyance ou contre.
C'est quelque chose
qui vous appartient. En revanche, vous êtes obligé de respecter la même chose pour tous les autres.
C'est très important. Et alors, des journées comme le 9 décembre, des commémorations, ce rappel, des expositions, ça permet comme ça de donner corps à ce qu'est la laïcité.
Alors, moi, je crois, en tout cas, je crois que vous étiez à l'exposition des Mariannes, j'étais un peu étonné du fait que les enfants qui étaient là étaient accompagnés par, je pense, du personnel éducatif, mais qui les conduisaient comme un troupeau qui emmène dans les prés. Alors, moi, j'ai pris deux groupes, et d'ailleurs, une photo en fait foi, pour dire, venez, je vais vous montrer, parce que les enfants, ils regardent.
Il faut guider leur regard, il faut leur expliquer.
Ça, vous voyez ce que ça veut dire, ça Parce qu'il y a, par exemple, un vase au pied de la Mariannes avec SEU. Qu'est-ce que ça veut dire, SEU Suffrage universel. Enfin, on allait pouvoir voter. SEU, c'est le symbole au pied de Mariannes que tout le monde va déposer son bulletin. Eh bien, ils savent quelque chose en sortant.
Bien entendu.
Que j'ai parlé des registres d'état civil qui sont au plafond. Sinon, ils ne lèvent pas le nez et personne ne leur a dit de regarder. Et pourquoi il y a ça?
Mais c'était très... Effectivement, il faut faire de la pédagogie.
Il faut faire de la pédagogie. Et donc, c'est bien que... Parce que les élèves, ils sont ouverts, moi, je trouve. Les gosses,
ils ont envie de savoir et d'apprendre, bien sûr.
Et il ne faut pas les laisser entre les mains de la télévision.
Oui, ou des réseaux sociaux quand ils sont plus grands, effectivement. Et si nous allons un peu avant, j'aimerais que vous fassiez une petite recommandation comme ça à nos auditeurs, nos auditrices du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales pour que chacun apporte à sa réflexion un peu cette différenciation de ce qu'est la laïcité, ce qu'elle n'est pas. Comment procéder avec tout ça?
Alors, Écoutez, moi je crois d'abord qu'il y a de très bons petits ouvrages qui sont publiés, très accessibles.
Il y en a
très,
un que vous avez commis d'ailleurs, sur la laïcité,
j'ai commis sur la laïcité,
chez Dalloz.
Voilà, où vous avez à la fois ce que j'écris, mais j'ai la référence à tous les textes. C'est-à-dire bien que sûr. Dans une discussion, vous pouvez dire, attendez, c'est marqué là, voilà, article 2, article 8, etc. Donc, informez-vous. On est dans un pays de la liberté d'expression, ouais. Y compris sous la forme de livres. Donc, informez-vous. Allez écouter des conférences. Il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup. Allez voir des expositions. Il y a des choses qui se font. Et avec ça, formez-vous un jugement. Moi, je suis prêt à, participer, je le fais, à beaucoup de ces entreprises de divulgation, de la connaissance de ce qu'est
très,
le principe.
Très volontaire
dans les écoles, dans une radio, par exemple, aujourd'hui. Mais dans des conférences, là, dernièrement, j'étais dans une maison pour tous à Saint-Jean-de-Védas. Il y avait un petit public. C'était épatant parce qu'ils étaient là. Mais monsieur, on ne nous l'avait jamais raconté,
et voilà,
tout
c'est ça.
Et
bien voilà.
Donc vous avez,
magnifique.
Je dirais aux gens à votre disposition, on est dans un pays de liberté, des tas de choses. Profitez-en.
Et le monde de l'entreprise.
Et le monde d'entreprise, pareil, il y a
très
des
souvent,
règles très,
il est un peu,
très précises.
Il est un peu bradé dans l'information, la
Alors,
pédagogie.
Alors, il est un peu bradé et surtout, c'est diffusé depuis une quinzaine d'années, une espèce de crainte de manifestation à l'intérieur d'entreprise. Le droit est un peu compliqué, je le reconnais là, c'est du droit européen essentiellement, mais on a au fur et à mesure augmenté la marge d'expression religieuse à l'intérieur d'entreprise. Moi, je me souviens de mots d'ordre très gauchistes des années 68 où on disait aux gens qui allaient rejoindre l'armée, même sous l'uniforme, tu restes un citoyen.
Ouais.
Et ben, même avec l'habit de travailleur, tu restes un citoyen. Et donc, on a élargi les possibilités de manifestation par des signes religieux dans les entreprises sous le contrôle, sans qu'il y ait de discrimination, mais en empêchant que la lubie d'un dirigeant d'entreprise décide que ça c'est possible, ça c'est pas possible.
Oui, il y a quand même, des règles,
quand même
des règles et des lois.
Et au fond, tant qu'on ne menace pas l'ordre de l'entreprise, la liberté d'expression elle existe même dans l'entreprise.
Dans l'entreprise, c'est intéressant aussi d'amener les salariés d'une entreprise à réfléchir à ces questions-là.
Absolument. Ça, je crois que ça se fait de plus en plus.
Et ça se fait régulièrement à présent.
Oui. C'est
assez nouveau.
Mais oui,
c'est assez nouveau.
C'est assez compliqué. L'affaire Babylou avait fait beaucoup parler, et elle était d'une simplicité, si j'ose dire, évangélique, parce que la dame qui arrive avec un foulard, elle ignore qu'il y a un règlement intérieur de l'association qui décide qu'on ne peut pas avoir de signe religieux. Bon, ben, appliquez le droit de votre association, c'est pas qu'on vous brime, vous en particulier, il y a un droit, vous pouvez le contester, vous pouvez discuter, vous pouvez faire mettre à l'ordre de l'Assemblée Générale la modification du règlement intérieur, mais tant que le règlement intérieur est comme ça, vous l'appliquez.
Bon, on n'en entend pas moins d'un professeur de droit que de dire on revient à la règle et à la loi.
Absolument.
Et que c'est le référentiel de base qui sécurise notre liberté, finalement.
Moi, je voudrais dire, on souffre d'un trop-plein de discours.
Oui.
On a des discours pseudo-historiques, on a des discours politiques, on a des discours pseudo-philosophiques, on a de tout sur les idées. C'est très bien, c'est le charme de notre société. Mais quand il faut résoudre un problème, il y a un discours qui s'applique, c'est le discours du droit.
Merci professeur Michel Miaille, merci de nous avoir éclairé brillamment sur cette laïcité à la française, une laïcité qui justement fédère
Absolument.
Et maintient notre cohésion sociale. Merci.
Merci de votre invitation.
Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.
Joyeuses fêtes sur Radio Aviva.